The Community, c'est le podcast qui traite des réseaux sociaux chaque semaine.
On en discute et on invite des praticiens et leaders dans leur domaine qui viennent partager leurs avis, leurs méthodes et leurs visions sur les médias sociaux.
Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Nonly sur les réseaux sociaux. Je suis, comme chaque semaine, Enguerrand. Comme chaque semaine, je suis avec mon sensationnel CEO, Moïse. Bonjour Moïse.
Salut Enguerrand.
Et aujourd'hui, nous recevons Michaël Busson, responsable social média Pôle Numérique chez l'équipe. Bonjour Michaël.
Bonjour à tous.
Salut Michaël.
Alors, Michaël, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle au sein de l'équipe et un petit peu comment vous approchez les choses côté réseaux sociaux au sein de l'équipe?
Oui, assez simplement, l'équipe, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, c'est un média, on va dire, global, puisqu'il s'appuie sur trois piliers qui sont le print, donc le quotidien, dans un premier temps, qui est le pilier historique, en fait, du groupe L'Équipe, et ensuite, donc, la chaîne L'Équipe, et également le site Internet, donc la page web et ses applications. Quand vous travaillez au social media, donc à L'Équipe, le but du jeu, c'est forcément de valoriser la distribution des contenus qui sont déjà publier ou alors traiter ou alors diffuser sur les trois premiers piliers dont je viens de parler. Donc le social media, c'est pas un pilier parmi le groupe, en fait, dans le groupe L'Équipe, c'est tout simplement il a une fonction de relais, mais également de création de contenu pour aussi pouvoir se différencier, proposer une expérience utilisateur un peu plus longue et la prolonger dans le sens où on va pouvoir peut-être proposer des contenus qu'il n'avait pas vu, que l'utilisateur à rater ou alors que ou tout simplement les traiter de manière différente. Donc on a vraiment cette fonction de prolonger en fait la distribution des contenus à travers les réseaux sociaux pour aller toucher différentes cibles. C'est un petit peu notre rôle majeur au sein même en tout cas du groupe.
D'accord. Moi, peut-être une question par rapport à ce que tu dis au niveau du prolongement de la création de contenu. Comment vous approchez ça? Est-ce que vous récupérez du contenu existant pour le traiter de façon différente? Est-ce que ça va être des formats différents? Comment vous faites ça?
Alors en fait, ça va vite être décliné par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés nous. Le premier, c'est simplement de proposer de travailler sur des contenus qui sont engageants. C'est-à-dire l'engagement, c'est ce qui va permettre on estime, de mesurer la qualité des contenus qu'on propose. Autrement dit, si nos contenus ne génèrent pas d'interaction, ne génèrent pas de réaction de la part de l'utilisateur, on estime qu'on est passé un petit peu à côté. Heureusement, on fait du sport. C'est une matière qui est quand même assez engageante de ce point de vue-là, puisqu'elle peut susciter de l'émotion dans le meilleur des cas. Donc, c'est un objectif qui est assez facile à atteindre. Le deuxième, c'est de générer du trafic forcément sur nos assets web, gratuits comme payants. On est un média, donc forcément, il faut aussi se rémunérer, avoir un modèle économique. Et les réseaux sociaux, sauf pour certains médias, mais sont rarement des sources de revenus, en fait, pour ces médias. Donc, il faut aussi qu'on puisse générer du trafic sur les surfaces monétisables et sur le numérique. Pour le coup, nous, c'est le site Internet et les applis. Et enfin, le dernier objectif, c'est tout simplement savoir utiliser correctement les réseaux sociaux à travers leurs algorithmes. Donc, c'est de mieux les comprendre, de mieux les définir, de bien comprendre la stratégie que les différents social media et plateformes vidéo ont pour pouvoir proposer du contenu qui soit totalement adapté. Puisque pour répondre à ta question, forcément, les community managers ne sont pas des journalistes à proprement parler. Ils réexploitent en fait le contenu qui est produit par la rédaction de l'équipe. Et c'est la chance qu'on a de travailler dans un média comme celui-là, c'est qu'on peut s'appuyer sur près de 300 journalistes. Donc, il y a une production de contenu qui est constante, permanente et surtout foisonnante. Donc, à nous, en fait, de choisir en fait, ce qui nous intéresse le plus ou ce qu'on estime, en tout cas, le plus intéressant pour notre cible. Donc, okay. Nous, on peut créer des contenus, on peut en faire aussi de nous-mêmes, mais essentiellement, on se repose sur ce qui a déjà été fait, qu'on va retraiter, qu'on va refaire, retravailler, créer des formats visuels, statiques ou en mouvement, comme par exemple, on peut réaliser actuellement sur Snapchat où on va créer directement un journal quotidien, mais bien sûr à partir d'informations qui seront tirées auprès de la rédaction.
Et aujourd'hui, vous ne faites aucune monétisation sur les réseaux sociaux?
On en fait dans certains cas, je vais m'expliquer. Donc sur Facebook, on n'en fait aucune directement avec Facebook, c'est-à-dire que les vidéos sont toujours fermées pour l'instant à la monétisation, donc on n'en tire aucun subside. Twitter également, sur Instagram, idem. Et enfin, pour Snapchat, c'est un peu différent. C'est comme on a un discover, un publisher, il y a forcément des interstitiels de pub qui s'y insèrent et qui sont donc vendus ou par Snapchat ou par la régie. Sinon, l'autre forme de monétisation qui est indépendante, en tout cas enfin, qui peut s'appliquer sur tous les réseaux, c'est le brand content. Et on essaie d'en faire, on va dire, non pas le moins possible, mais qui soit le plus cohérent possible avec l'ADN de l'équipe. Autrement dit, que ce ne soit pas de la publicité, mais du vrai brand content, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de contenu qui puisse apporter quelque chose. Certes, ça peut être porté par une marque, mais que ce soit au moins un contenu qui est en relation au sport, autrement dit, qui ne soit pas un contenu uniquement à vocation publicitaire. Ça, non, ça pouvait se faire parfois par le passé, mais aujourd'hui, on ne préfère pas du tout aller sur ce terrain-là, estimant qu'il faut qu'on prenne soin simplement des gens avec qui on travaille.
Vous avez...
Et pour savoir que le brand content aussi, c'est pas non plus le chemin le plus court pour un annonceur pour exposer sa marque. Les annonceurs n'ont pas une maturité forcément très très élevée parfois en la matière, en tout cas pas tous. Et donc du coup, ils préfèrent forcément s'appuyer parfois sur des médias un peu plus traditionnels ou acheter du Google Ads et des publications sponsorisées sur Facebook. Donc c'est le brand content, c'est pas le chemin le plus court en tout cas pour créer un contenu avec une marque et c'est en tout cas pas du tout rémunérateur par rapport à l'échelle d'un média comme l'équipe.
Et pourtant, il faut rappeler que vous êtes le média numéro 1 en termes de trafic en France, si je ne me trompe pas.
Alors, ça va dépendre des périodes, en fait. Et en toute honnêteté et en toute humilité, il se trouve que pendant les périodes sportives, on a forcément une recrudescence d'audience. Quand je dis périodes sportives, c'est les périodes notamment de compétition internationale. On a une recrudescence de trafic, en tout cas sur le site Internet. Et puis ensuite, ça peut varier en fonction aussi des estimations et des calculs de médiamétrie. Mais oui, l'équipe fait très régulièrement partie du top 3, en tout cas des sites les plus visités ou les plus consultés. En tout cas, en audience quotidienne, c'est l'un des premiers, c'est-à-dire qu'il est soit premier ou deuxième. Et en audience mensuelle, ça peut varier un peu plus.
Là, ce que vous avez vu, ça me renvoie sur compétition internationale là, à l'heure actuelle, la Coupe du Monde féminine. On a vu des records d'audience télé. Est-ce que vous avez vu des records d'audience de vos articles sur l'équipe de France féminine?
Alors, pas du tout. C'est-à-dire que ça ne s'explique pas non plus par le contenu qui est réalisé, parce qu'il faut savoir que le traitement à l'équipe de la Coupe du Monde féminine est l'équivalent du traitement qui a été réalisé pendant la Coupe du Monde 2018. Autrement dit, c'est 11 journalistes, près de 6 à 7 photographes qui sont mobilisés en tout cas sur site, plus toute la rédaction qui travaille sur le desk. Donc la production de contenu, elle est équivalente, si ce n'est même plus, étant donné que la compétition a lieu sur notre territoire par rapport à 2018. En revanche, vous êtes sur un produit, donc le football féminin, la Coupe du Monde féminine en tout cas de football, qui est plus un produit de découverte pour les gens. Donc autrement dit, le premier média à travers lequel ils vont le découvrir, c'est la télévision. C'est pourquoi ça fait des records d'audience. En revanche, ce serait mentir de dire que les gens achètent un journal ou lisent ou s'abonnent pour du football féminin encore aujourd'hui.
Ouais.
C'est pas le cas.
Non, et a priori.
Il y aura peut-être des progrès dans les. Ben justement.
Mais espérons que ce sera un relais de ce point de vue, la Coupe du Monde.
Faut savoir être patient, par exemple, pour ce qui est de le football féminin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on est plus dans un stade de découverte. Après, vous êtes peut-être dans un stade d'intérêt. Si la découverte elle est bonne, on va peut-être pouvoir intéresser les gens avec ça. En tout cas, l'équipe aura joué pleinement son rôle en traitant la compétition vraiment comme une compétition majeure. Donc, c'est même pas un test, c'est ce qu'il fallait faire éditorialement. Et du coup, derrière, ben, si ça a plu aux gens, peut-être qu'ils continueront et on verra à la rentrée prochaine.
Alors, j'ai une question plus technique concernant la méthodologie pour poster. Sur la dernière journée, vous avez posté 27 contenus. Et ouais. Alors c'est assez homogène, mais on voit une présence de type photo assez importante parce que vous avez fait 16 posts de type photo, 8
oui.
liens et 3 vidéos.
Oui.
Et du coup, de ce point de vue, est-ce que tu peux nous expliquer la méthodologie que vous appliquez?
Ça vient de plusieurs constats en fait. Le premier, c'est que on s'est aperçu il y a plus d'un an, 1 an et demi de ça, que on travaillait énormément sur les liens pour générer du trafic, donc pour répondre au deuxième objectif justement que j'évoquais auparavant. Très bien. Or, l'utilisateur aussi, quand il est sur une plateforme social media, il n'a pas forcément envie d'en sortir. Il est aussi là pour consulter du contenu et intégralement y rester. Il est très difficile de le faire sortir. Donc, on s'est aperçu que justement, on ne voulait pas vraiment suivre ce que faisaient les autres médias et diminuer la quantité de liens. Alors, certes, ça se fait dans une cohérence, on va dire, d'objectif, c'est de ne pas le faire de manière brusque. Il y a aussi des habitudes. Donc, au fur et à mesure, en fait, on a commencé à diminuer le nombre de posts liens qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, on arrive quasiment à avoir plus de posts visuels que les graphiques, que de posts liens, tout en maintenant un niveau de trafic aussi élevé. Donc, c'est qu'on est parvenu à trouver un équilibre assez correct. Et enfin, le troisième point à propos de cette partition-là, c'est qu'on essaie aussi d'intégrer de plus en plus de vidéos. Alors, hier, c'était pas forcément une excellente journée en termes de vidéos. On travaille beaucoup maintenant avec la cellule de production vidéo en interne, qui est aussi quelque chose d'un peu nouveau chez un média. La vidéo, c'est quand vous êtes chez les médias traditionnels, c'est pas tout à fait, on va dire, le premier support sur lequel ils souhaitent communiquer. Or, aujourd'hui, c'est ce qui permet de capter au mieux l'attention et même d'expliquer ou tout simplement d'informer de manière différente. Donc, du coup, nous, on s'en sert énormément aussi sur les réseaux parce que ça permet aussi tout simplement d'offrir un contenu directement à l'utilisateur. Sans se cacher, on sait très bien aussi que Facebook aime énormément la vidéo. Donc, pour, on va dire, bichonner cet algorithme, il a besoin de vidéos. C'est pourquoi maintenant, on a une répartition qui n'est pas automatique, qui n'est pas incentivée, qui n'est pas sous objectif. On le fait tout simplement à la connaissance de l'algorithme et de notre page Facebook et de notre audience. Et du coup, on tente d'alterner un maximum le nombre de formats.
Ok. Il me semble que sur les photos, vous y intégrez des liens à l'intérieur. Et du coup, quel retour vous avez de ces liens-là? Est-ce que vraiment vous avez un apport de trafic important ou pas du tout?
Ça dépend. On sait très bien qu'on en aura moins que si vous faites un post lien. Ça, c'est une évidence. Maintenant, on estime aussi que on veut pas non plus bête avec notre audience. Je m'explique. À chaque fois, lui envoyer un post lien, c'est typiquement lui dire clairement, viens sur mon site internet. Ce qu'on souhaite aussi, c'est lui montrer qu'on travaille, qu'il y a des gens derrière, qu'on essaye de mettre en œuvre un peu l'information, de la mettre en forme, qu'on a des graphistes, qu'on fait appel quand même à des gens de qualité qui sont compétents pour pouvoir leur présenter une information d'une manière différente. Donc, ce qu'on essaye parfois à travers le graphisme, c'est simplement de donner de l'information directement et en lui proposant un lien dans le wording, c'est voilà, si tu as envie d'aller plus loin, tu peux le faire. Donc, c'est un peu la promesse qu'on essaye d'avoir un peu avec notre audience, c'est d'essayer de lui servir quand même un contenu qui a été travaillé, où il y a des gens qui ont passé un peu du temps, dessus, pour ne pas devenir un robot automatique, puisque on pourrait très très bien automatiser la fonction de lien et déshumaniser complètement notre relation en fait avec l'audience. On a un petit peu ce parti pris là en se disant que si on travaille bien, si on fournit des bons contenus, ça va plaire en tout cas à notre audience bien plus que si on se comporte comme des robots en envoyant que des liens.
Ok.
Moi, je me posais une question par rapport à la modération, qui est un sujet qu'on a traité dans quelques podcasts précédents. Et comme vous avez, vous, une communauté qui est assez disparate en termes d'équipe supportée, je ne dis pas ça du tout parce que l'équipe est basée à Paris et que nous, on est à Marseille.
Marseille-Paris, c'est un des sujets majeurs de conversation, quelle que soit la publication.
Et alors justement, comment est-ce que vous traitez ça, vous, côté modération? Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières? Est-ce que c'est des choses qui sont traitées différemment côté réseaux sociaux et côté site? Comment vous approchez ça?
Alors oui, elles sont complètement gérées différemment côté réseaux sociaux et côté site. Côté site, c'est une fonction qui est externalisée et pilotée directement par un chef de produit chez nous. Mais la fonction, elle est externalisée. Sur les réseaux sociaux, c'est uniquement fait et traité en interne. Et on estime aussi que l'espace conversationnel sur les réseaux, il a une dimension beaucoup plus forte qu'il peut l'avoir encore sur le site. Donc, on est là aussi pour permettre aux gens de s'exprimer, de débattre. En revanche, dans les respects des règles, non pas de l'art, mais des règles de droit, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut, on ne dit pas ce qu'on veut sur les réseaux. On n'utilise aucun outil automatique si ce n'est ceux des plateformes mères, donc tels que Facebook où des mots peuvent être bannis. Sinon, c'est uniquement de l'humain, c'est le rôle de nos community managers de repérer simplement les débordements qu'il pourrait y avoir dans les débats sans jamais orienter le débat. C'est-à-dire que les gens sont libres tout simplement de s'exprimer. si tant est que c'est en rapport avec le sport et si tant est aussi que, comme je vous le disais, ça respecte toutes les règles pour ne pas tomber dans le racisme, la xénophobie, le sexisme, l'homophobie. Donc, on sait parfois qu'on peut nous-mêmes à l'équipe traiter des sujets qui sont parfois des sujets des débats particulièrement clivants. Quand on est amené à traiter ce genre de sujet sur les réseaux sociaux, nos social media managers et community managers savent pertinemment que la publication va devoir être suivie pendant au moins la demi-journée, puisqu'il va y avoir un très gros travail de modération à faire.
Parce que là, en fait, c'est épatant ce que tu dis, parce que le travail, enfin, on se doute que le travail derrière de modération est énorme, du coup, pour des humains sans assistance d'informatique derrière. Parce que là, j'ai vos derniers contenus sous les yeux. Quand on pense que le contenu qui a généré le plus d'engagement, il a généré 15 400 interactions sur les 24 dernières heures, on peut se dire que, donc 1 400 commentaires, on peut se dire que chaque post, étant donné que vous en faites quasiment une trentaine par jour, c'est...
Oui, un petit peu compliqué de diminuer au fur et à mesure, mais oui, on est dans ce zone-là, oui.
Il faut être capable de
sur la modération, après, il faut être aussi humble, comme c'est un parti pris de vouloir le faire humainement. Parfois, vous devez accepter tout simplement d'avoir des ratés, de passer à côté de certaines choses. Parce que sinon, vous mobilisez le triple de ressources humaines disponibles pour suivre toute votre activité. Donc, il faut aussi rester un petit peu humble et estime aussi que quand une marque média se positionne sur les réseaux sociaux, elle a aussi l'intérêt, mais surtout le devoir de se mettre au niveau, au sens de son audience. Autrement dit, c'est de ne pas évoluer avec condescendance. Votre information, c'est la vôtre, certes. Elle peut plaire ou ne pas plaire, en tout cas à votre lecteur. Mais en tout cas, lui, il a tous les droits d'exprimer son désaccord dans notre façon de traiter les choses. C'est aussi une façon de laisser libre simplement à leurs explications et leurs arguments qu'on écoute souvent, dont on fait aussi des retours à la rédaction, dont on parle. Ça ne va pas orienter, bien sûr, les choix éditoriaux, mais forcément, c'est à prendre en compte, en tout cas dans notre réflexion, notre capacité à produire de l'information.
Tu as mentionné différentes plateformes, c'est sur lesquelles que vous engagez le plus. En gros, si tu avais un espèce d'ordre, de classement, c'est lesquelles, j'imagine que Facebook est numéro un parce que c'est le cas chez la plupart des gens.
L'engagement est différent. Oui, mais l'engagement est différent. Si je pense que vous réalisez, vous posez ces questions-là à tous les médias, ils vous diront tous que c'est Facebook qui va générer leur trafic et qui va être le plus engageant. Beaucoup de médias ont des fonctions, ont des objectifs très très forts en termes justement d'engagement et de trafic généré. Nous, c'est un petit peu moins le cas, Donc, on peut en fait s'aventurer sur d'autres médias et y passer du temps. Alors, du coup, par exemple, si je vous prends Facebook, certes, ça va être très important pour générer du trafic et de l'engagement, de la conversation. Mais si on prend, par exemple, Instagram, ça va être le meilleur média pour générer de l'engagement rapide et juste une réaction de la part de l'utilisateur. Aujourd'hui, on a 1,4 million abonnés. On est le premier média francophone, en fait, sur Instagram. C'est pour nous aussi une super base d'audience pour réaliser des choses hyper intéressantes comme des Q&A en story. On va interroger des journalistes et demander, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu remettre à notre marque parfois au niveau et se rapprocher un petit peu des gens. Utiliser la fonction première des réseaux sociaux qui est l'interactivité. Tout simplement, on va organiser des Q&A avec les journalistes, avec des experts, avec des athlètes, où on va faire remonter les questions des utilisateurs. Là, forcément, en termes de chiffres, on ne va pas être à l'équivalent d'un post ou d'une publication sur Facebook, mais en termes de retour de questions et de qualité, en tout cas d'interaction, c'est largement supérieur, par exemple. Et enfin, pour Snapchat, vous pouvez aussi organiser beaucoup de contenu interactif sur Publisher. Donc, vous pouvez mobiliser largement plus d'utilisateurs que de lecteurs pour le quotidien, par exemple. Donc, ça a aussi une fonction très, très engageante. Donc, d'ordre, je ne donnerai pas forcément Twitter en engagement et forcément en dessous, parce que c'est un peu le média des médias, puis c'est un média d'information et d'opinion. L'idée n'est pas tant de faire réagir les utilisateurs, même si je sais que c'est le média préféré des médias. Ça reste un complément de vos médias d'information. Mais en termes d'engagement, il n'est pas vraiment fait pour ça. En revanche, quand il s'agit de traiter un événement très fort, c'est-à-dire un événement, je veux dire, en live, qui est en train de se passer, qui est exactement le claim de Twitter d'ailleurs, Twitter est plus fort que tout. C'est-à-dire que vous prenez des cas comme le Ballon d'Or, une finale de Coupe du Monde, une finale de Ligue des Champions, un match un très important de football ou une compétition où une équipe de France est en train de s'illustrer, vous pouvez être sûr que c'est sur ce média-là, à l'instant T, que vous allez gagner le plus d'engagement. Donc, il faut essayer de présent et le traiter.
D'accord. Moïse, est-ce que tu as des questions avant de passer à la question du réseau social du futur?
Moi, j'ai une question plus généraliste. C'est au fur et à mesure des années. Donc, ça fait combien de temps d'ailleurs que tu travailles au sein de l'équipe?
Au sein de l'équipe, ça fait un an et demi.
Ça fait un an et demi.
C'est assez récent.
Donc, tu as vécu la Coupe du Monde l'année dernière. Est-ce que c'est l'événement qui a généré le plus d'interactions et de conversations au sein de l'équipe, ou il y a eu d'autres événements majeurs internationaux qui ont…
Bizarrement, non. C'est pas l'événement majeur. L'événement majeur, c'est le Ballon d'Or. Et de très très loin.
D'accord.
C'est-à-dire que la cérémonie du Ballon d'Or a généré 4 fois plus d'engagement que la finale de la Coupe du Monde sur les supports de l'équipe. Parce que vous êtes sur un média individuel, vous êtes sur un produit international, complètement international, vous me direz comme la Coupe du Monde, sauf que bizarrement, le Ballon d'Or va mobiliser tout le monde sur toute la planète pour savoir qui va l'être. Alors que la Coupe du Monde, une fois que vous avez deux nations qui s'affrontent, les autres sont désintéressés quelque peu. En revanche, le Ballon d'Or, tous les fans de football veulent savoir qui va l'être et quel va être le classement. Donc, c'est aussi la force du produit qui fait que aujourd'hui, ça peut être encore plus fort.
Oui, d'autant plus qu'effectivement, si l'équipe touche un public francophone, on est au-delà des frontières françaises et on a effectivement un public francophone qui…
Le Ballon d'Or a une vocation, une portée internationale. Déjà d'une part parce que c'est le seul moment où on prend la parole en anglais. Donc forcément, puis on travaille aussi avec des médias, des supports digitaux anglais pour accroître la résonance du Ballon d'Or. Donc c'est la force du Ballon d'Or, elle est vraiment exponentielle par rapport à un événement lambda et récurrent.
Ok, et moi j'ai une dernière question technique par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les interactions, enfin la collaboration avec Snapchat. C'est comment vous générez vos contenus au sein de Snapchat? Quels outils vous utilisez? Est-ce que c'est des outils internes à Snapchat ou c'est d'autres outils externes?
D'accord. Snapchat travaille beaucoup pour mettre à disposition des éditeurs des outils justement qui permettent la verticalisation des contenus. Or, ça reste des outils stand-alone, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, ils sont livrés comme ça, ils ne correspondent pas forcément à vos besoins, vous voulez aller plus loin, vous voulez faire plus. Donc, du coup, pour l'instant, il est encore un peu difficile de se limiter aux outils de Snapchat pour pouvoir créer directement notre édition publisher, surtout pour qu'elle ressemble particulièrement, enfin, qu'elle colle en tout cas à l'ADN de l'équipe. Donc, aujourd'hui, on travaille avec une agence prestataire, en fait, qui va réaliser toute la partie motion design et production de contenu, et même conseil parfois. Pour notre journal sur Snapchat, et ce sont nos community managers qui vont décider du contenu, qui vont jouer le rôle d'éditeur et de journaliste dans cette position-là pour tout simplement choisir les sujets, comment les mettre en forme, avec quel thème, sous quel format, dont ensuite l'agence va mettre en forme grâce à des graphistes et des motion designers.
Ok, donc là-dedans, après, vous le mettez dans la plateforme de Snapchat et…
Après Snapchat, un back-office, un CMS qui permet du coup de gérer en fait le journal, de l'ordonnancement et son organisation.
Ok.
Moi, ça m'envoie juste une question. Comment vous identifiez-vous à la base des thèmes que vous pensez qu'ils vont engager?
Quand vous êtes sur Snapchat, vous parlez aussi à une cible qui est un peu différente et surtout en fait… Vous parlez peut-être à une cible qui est différente, mais qui a peut-être déjà consommé des contenus ailleurs. Donc, il faut aussi, et c'est probablement un des écueils que les médias ont à surmonter, c'est avoir cette capacité à décliner une même information de manière différente. Je m'explique. Ce qu'il ne faut pas, c'est proposer, on essaye de faire, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est proposer le même contenu sur tous les réseaux. Il n'y a rien de pire pour un utilisateur de voir qu'il y a une déclinaison comme ça, quasiment automatique du contenu. Donc, il faut essayer au moins minimum de le surprendre pour qu'il soit intéressé par ce que vous faites. Donc, à chaque fois, proposer une déclinaison différente. Donc, du coup, sur Snapchat, il y a en plus une autre problématique. C'est que d'une part, vous êtes sur une cible qui ne connaît probablement pas l'équipe. On a réalisé des études. Parfois, dans les nouveaux abonnés, il y avait entre 50 et 60% des nouveaux abonnés qui découvraient l'équipe pour la première fois. c'est-à-dire sur Snapchat. Autrement dit, ils n'avaient jamais regardé la télé, ils n'avaient jamais regardé la chaîne d'équipe, ils n'avaient jamais eu le journal, ils n'avaient jamais
allé sur Snapchat. Ça n'existe pas, ça, normalement. Où était-il ? Où il est-il ?
Ah, tu peux ne pas connaître l'équipe.
C'est possible.
Il faut aussi être très humble, en fait. Hein. C'est qu'il y a un moment, le temps, il passe, les gens arrivent, ils ont des habitudes de consommation d'informations qui sont complètement différentes. Je trouve que ce n'est pas si étonnant que ça.
Ça, oui, tout ton point de vue, parce que tu as besoin de marquer une certaine humilité.
Il faut.
Et tant mieux. Mais de notre point de vue.
C'est des signaux qu'il faut aussi enregistrer comme ça et se dire que vous avez beau être le premier média, parfois en termes de consultation sur le web, le premier média sportif dont vous avez le monopole, pour autant vous n'êtes pas du tout invincible. Et il se peut que des générations, certaines générations, et notamment forcément les plus jeunes, ne vous connaissent pas, ne vous consultent pas et vous ignorent totalement. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est justement de traiter l'information de manière un peu plus pédagogique sur Snapchat, sans pour autant la simplifier, mais essayer d'être le plus pédagogique possible pour rendre simplement l'information sportive un peu plus fraîche, un peu plus sympa et peut-être plus facile à lire. Et quand on a des sujets un peu complexes, justement, on essaie de les expliquer et d'entraîner un petit peu l'utilisateur à prendre du temps. Il n'y a pas beaucoup sur Snapchat, il va très vite. Donc, on veut aussi l'inciter à la lecture, parce que forcément, on est un média d'information et qu'à terme, on aimerait que cet utilisateur lise encore plus nos contenus. Donc, le but du jeu aussi, c'est de l'inciter, de l'inviter à lire de plus en plus. Donc, pour ça, on choisit aussi des sujets en fonction, quoi, qui s'y prêtent, quoi. Et pour le coup, on a une totale autonomie dans nos choix. Donc, ça, c'est très intéressant.
Ah, ce que j'allais dire, c'était qu'on était des vieux. Hein, donc, nous, forcément, l'équipe,
c'était une évidence. L'équipe, ça
nous, à notre époque, on rentrait dans un train, un avion, n'importe où. Il y avait quelqu'un avec l'équipe dans les mains. Aujourd'hui, c'est sur le téléphone.
Oui, et l'équipe. Puis après, en même temps, c'est avec Snapchat, ils sont vraiment beaucoup plus jeunes. Donc, forcément, clairement, ma fille,
c'est ça, donc,
bord, elle ne
peut pas. Ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire, quand vous commencez à donner un téléphone portable à des enfants, puis des pré-ados, leur usage, ça va pas être de se rendre sur un site internet directement. C'est des choses qui font tout simplement partie aujourd'hui de la consommation de contenu et d'informations et des usages. Donc, faut l'accepter, s'adapter tout simplement.
Absolument. D'où l'importance de s'adapter aux nouveaux médias.
Ce qui est bien, c'est que tu confirmes exactement notre vision qui est un réseau social. Il a une vocation et une façon de communiquer. Et du coup, on ne communique pas de la même manière sur tous les leviers.
Non, ce serait une erreur de penser qu'ils servent tous à la même manière. On n'a pas parlé depuis le début de YouTube, mais qu'il y a aussi une autre façon de communiquer, de proposer du contenu. Il ne fonctionne pas de la même manière et le contenu est aussi complètement différent de ce que vous pouvez faire. Et c'est un support de création. Donc, idem, si vous êtes dans une logique de mutualisation, répétition et déclinaison, vous n'avez pas vocation à être présent sur YouTube. Donc là aussi, nous, on a beaucoup d'efforts à faire. Actuellement, on est en train d'y réfléchir. Mais pour communiquer correctement sur YouTube, il y a des médias qui ont pris de l'avance en la matière et qui le font très bien. Nous, on a encore beaucoup de chemin à rattraper en la matière.
Et là, puisqu'on est de retour sur la question donc, des différents réseaux sociaux, pour toi, quel est le réseau social du futur ?
Je pense que je serais très prétentieux d'être capable de l'affirmer, mais en tant qu'éditeur, on se fait tous draguer actuellement par différents réseaux tels que réseaux, plateformes vidéo, mais tels que Twitch, je pense, très rapidement se déporter sur autre chose que du gaming. Même s'ils ne veulent pas forcément le pléronner sur tous les toits, mais il y a de grandes chances qu'ils deviennent aussi un distributeur d'informations et il va pour ça devoir faire appel aux éditeurs pour compléter en fait son offre de contenu. Donc je pense que Twitch a une énorme, très belle carte à jouer à court terme, mais qui devrait en tout cas se rapprocher assez essentiellement de YouTube, vu que la fonction vidéo elle est quand même beaucoup plus adaptée que sur Facebook. Alors que même sur Facebook, la fonction vidéo fonctionne très très bien. Mais je pense que Twitch a quand même cet usage qu'il a réussi à créer avec brio, sur lequel les éditeurs vont devoir en tout cas se positionner à court ou moyen terme. Après, les idem, je pense que tout le monde a pensé un jeu, quelque chose sur TikTok. Certains ont déjà essayé, mais en faisant un petit peu ce qu'ils faisaient déjà ailleurs. Je crois que c'est une des applications sur lesquelles il y aurait des choses à faire et pour l'instant, je pense qu'aucun média n'a trouvé la bonne solution, la bonne recette pour proposer du contenu adapté. On est surtout sur de la reprise de contenu plus que d'adopter les usages de la plateforme. Mais il y aurait en tout cas des choses à faire. Après, de là à prétendre que ce soit des réseaux du futur, ce serait quand même être un peu aveugle, puisqu'en fait, c'est juste les réseaux d'aujourd'hui, mais que les médias n'utilisent pas trop. Donc, c'est pour répondre vraiment à la question, le réseau du futur, honnêtement, je m'y avancerai pas et j'en aurais vraiment aucune idée pour l'instant.
Bon, c'était déjà une très bonne réponse en soi. Et c'est marrant, c'est la deuxième fois qu'on entend Twitch comme réponse. Comme réponse. Jusqu'ici, on n'a eu que des différents. Après, là, ça devenait difficile de faire du différent de ce qui avait été déjà dit.
Ils ont tous été cités.
Mais effectivement.
Je pense que TikTok, c'est une des réponses que vous devez avoir déjà. Mais les quatre autres, on va dire, réseaux sociaux plus plateforme vidéo YouTube sont très bien établis, ils ont leur public, ils vont pas disparaître. Il y a aussi actuellement des pas mal de réflexions et des tentatives qui sont via les messageries, donc à travers les bots ou alors tout simplement à travers les outils de messagerie tels que WhatsApp. C'est plus le présent que le futur en fait. On est un peu en train de rattraper notre retard pour aller chercher des cibles qui sont déjà déportées ailleurs en fait.
Ouais, absolument. Alors, deux dernières questions. La première, l'erreur que tu as commise, dont tu as le plus appris.
Évidemment. Bah, c'est se lancer sur un réseau social juste pour aller se dire qu'on va aller capter de nouvelles cibles, sans pour autant en avoir ni les codes ni la compréhension. On a fait une petite tentative il y a quelques mois sur Reddit, par exemple, qui est un réseau social anglophone uniquement, pas très utilisé en France, mais on voulait justement essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Nous, en tout cas, même en anglais, et on s'est complètement planté parce qu'on n'a pas du tout maîtrisé la manière de faire. La première erreur, c'est de penser que juste avec votre marque, vous pouvez vous installer sur n'importe quel réseau. C'est complètement faux. Il y a des raisons d'usage, des raisons d'ADN, des raisons de reconnaissance de votre marque qui font que elle va pas toujours être adaptée. Donc, ça va être à vous de s'adapter à ces codes. Donc, ça, c'est un peu une des erreurs, en tout cas, qui sur lesquelles il y a des très bons enseignements à tirer. C'est pas non plus se précipiter, faire n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a un réseau social qui ouvre, qu'il faut absolument y être. C'est un peu comme on pouvait voir dans les années, au milieu des années après 2010, où fallait que tout le monde ait son application et crée son application. On s'aperçoit que parfois les applications, ça n'a aucun intérêt si vous n'avez aucun service à apporter. C'est un peu la même chose sur le réseau social. Si vous n'avez rien à dire d'intéressant, ça ne sert pas grand-chose d'y être.
C'est très juste et c'est marrant à quel point c'est tout aussi juste qu'en business en général, où un marché est super intéressant, type je pense à la Chine évidemment, où des quantités d'entreprises qui en sont des logos énormes, à la fois à l'extérieur, mais pas là-bas, qui arrivent, qui se cassent les dents et qui rentrent. Parfois même qui perdent leur business. On a vu avec Viadeo ce qui s'était passé d'ailleurs, c'est comme ça que Viadeo a chuté.
C'est vraiment des réflexions qu'il faut avoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire sur Reddit, mais ce qui est sûr, c'est que de la manière dont on y est allé, on s'est complètement planté. Donc, on va réfléchir, on va prendre notre temps et puis on va déjà passer un peu plus de temps sur la plateforme. Ce qui est très important aussi sur tous ces médias-là, c'est de travailler avec des personnes qui ont l'usage, en fait, qui sont des utilisateurs. Et avoir cette modestie quand, si ce n'est pas vous qui l'êtes, pas grave, c'est quelqu'un d'autre qui le fera mieux que vous, donc autant vous appuyer sur son savoir-faire. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de gens qui parlent, oui, les réseaux, c'est en train de changer tout. Attention, je veux dire, c'est pas en train de changer tout, c'est pas en train de révolutionner, ça complémente tout l'écosystème média qui existe aujourd'hui. Et c'est juste que comme il y en a maintenant, il devient de plus en plus protéiforme et que les marques médias notamment souhaitent être présentes partout, à tort. Et la bonne conduite, c'est surtout de réfléchir à ce qu'on va y faire.
Et alors, la dernière question. Secret de la réussite, donc imaginons, tu parles à un jeune community manager qui démarre, quel est le petit secret pour qu'il réussisse sur les réseaux sociaux que tu partagerais avec lui ?
Eh bien, c'est forcément, mais c'est une lapalissade, mais la première, c'est la curiosité. C'est-à-dire que c'est la curiosité qui va vous permettre en tout cas de vouloir essayer et d'échouer. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on peut tenter. Le social media, il a cet avantage-là, c'est que la production de contenu peut parfois ne pas être trop coûteuse dans un premier temps, en fonction des ambitions bien sûr, mais il n'y a pas besoin d'un investissement trop important dans un premier temps en production de contenu. Donc, faut essayer, tenter, réussir, échouer, recommencer, améliorer. On est vraiment dans un process de réflexion qui est constructif au fur et à mesure des tentatives. Donc c'est vraiment le premier conseil pour moi, c'est cette curiosité qu'on peut avoir vis-à-vis de tout ce qui se fait, parce que on est très nombreux, il y a plein d'éditeurs, mais vis-à-vis de tout ce qui se fait à côté, et de voir comment justement si on peut pas s'inspirer de très bonnes pratiques ou en créer des nouvelles grâce à ce qui a déjà été réalisé. C'est je trouve que c'est une des premières qualités en tout cas pour un bon CM, c'est d'être assez on va dire connecté dans l'environnement dans lequel il évolue, pas connecté au niveau forcément mobile, mais connecté aux usages et aux contenus qui sont produits autour. Ça peut aller aussi bien de la télévision, de la publicité, des autres supports médias. C'est l'inspiration et les bonnes pratiques, elles sont à trouver partout, quoi.
Complètement.
Parfait.
On pourrait pas être plus d'accord.
Ah non.
Bah, super, Mickaël, merci beaucoup pour ce retour. Merci pour ce podcast qui, j'en suis sûr, sera une inspiration pour tous.
Ouais. J'aurais pas cette prétention là, mais si ça peut l'être, tant mieux.
En espérant.
Pour noter l'humilité que tu présentes, c'est assez agréable.
Non, tant mieux.
Bah écoute, passe une excellente journée, un très bon week-end, et puis bah de toute façon, j'espère à bientôt pour une nouvelle édition
Avec grand plaisir. J'ai passé un excellent moment, c'est très sympa à vous en tout cas les gars. Je vous souhaite une très bonne continuation, puis j'écouterai avec attention en tout cas les prochains.
Ok, merci beaucoup.
Merci Mickaël. Salut.
Salut.
C'était une nouvelle édition de The Community.
Vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Google Podcast et notre blog pour encore plus de contenu sur nonly.com, nonly.com.